Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le financement de logiciels libres avec le retour d'expérience de la société XWiki, notre invité Ludovic Dubost. Bonjour Ludovic.
Bonjour Frédéric.
Alors le logiciel libre est caractérisé par les quatre libertés que l'on connaît, liberté d'utilisation, de comprendre le fonctionnement, de modifier le logiciel et de le redistribuer dans sa version originale ou dans sa version modifiée. Mais libre ne veut pas dire forcément gratuité. Les modèles de financement de logiciels libres sont variés. On en a déjà un peu parlé dans l'émission notamment consacrée au lecteur multimédia VLC. Et aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement, du financement de logiciels libres avec un retour d'expérience de la société XWiki. Nous consacrerons d'autres émissions à la même thématique, car en fait, les modèles sont très variés, les retours d'expérience sont très variés. Mais l'avantage de XWiki, c'est un retour d'expérience sur une quinzaine d'années. Donc avec Ludovic Dubost, créateur du logiciel XWiki, PDG de la société XWiki SAS qui développe XWiki et CryptoPad, dont nous allons parler également, membre également du conseil d'administration d'Open Food Facts, dont nous avons déjà parlé dans l'émission Libre à vous. Alors première question déjà Ludovic, une petite présentation personnelle, quel est ton parcours et comment tu es venu au logiciel libre et à créer un logiciel libre et une entreprise du logiciel libre ?
Mon parcours, c'est que je travaille dans l'informatique maintenant depuis 25 ans. En fait, j'ai été passionné d'informatique très tôt. J'ai eu un Apple IIc. J'ai commencé à programmer un peu dans mon temps libre. Ensuite, j'ai fait des études d'ingénieur. Et puis, j'ai découvert Internet lors d'un stage dans la Silicon Valley en 1995. Et en fait, quand je suis revenu en France, j'ai voulu absolument travailler sur Internet d'abord. Et donc, ça m'a amené en fait à d'abord trouver un job chez Capgemini, puis en fait, j'ai été débauché par Netscape. Et donc, j'ai travaillé deux ans et demi chez Netscape au consulting, à aider à mettre en place les logiciels serveurs de Netscape, serveur web, j'ai commencé à toucher un peu au logiciel collaboratif dans cette optique-là. Mais j'ai surtout vu chez Netscape en fait une concurrence exacerbée entre Microsoft et Netscape. J'ai aussi vu l'émergence de Mozilla. En fait, j'avais même candidé pour travailler pour Mozilla quand j'ai quitté Netscape. En fait, j'ai dit je ferais bien ce job-là, et puis finalement ils me l'ont pas proposé. Il y avait que 5 personnes qui bossaient sur Mozilla à l'époque, et donc finalement j'ai quitté. J'ai bossé dans une start-up française qui faisait de la mesure d'audience de sites internet. Et en fait, je suis resté 3 ans dans cette société qui a été une start-up qui a un peu tout le profil. C'était une des premières sociétés françaises à rentrer en bourse avec quasiment pas de revenus et qui a explosé dans la bulle internet. J'ai été un millionnaire virtuel parce que j'avais 1% de la société comme stock option au départ. Donc c'était vraiment la start-up parfaite. Et en fait, en sortie de ça, ça m'a fait pas mal réfléchir. J'ai démarré dans le logiciel libre plus sur la problématique de technologique. C'est-à-dire que j'ai vu qu'en 5 ans, les décisions que j'avais prises en tant que directeur technique de cette start-up, le logiciel libre les aurait changées fondamentalement. C'est-à-dire qu'on aurait, plutôt que des bases de données Oracle et des serveurs Sun, on aurait mis du Linux, du MySQL et ces technologies qui ont émergé, ou des choses comme JBoss qui se sont lancées à ce moment-là, ou Red Hat. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose de très fort là-dedans, donc une opportunité. Et donc j'ai décidé de créer la société XWiki sous forme de logiciel libre. Et puis alors il y avait un aspect idée, hein. J'avais envie de créer une société, j'avais envie de créer quelque chose dans le partage de connaissances, chose que j'avais fait chez Netscape. Et donc je me suis lancé dans XWiki. Et donc j'ai décidé de le faire sous forme de logiciel libre. Mon premier contact au logiciel libre était plutôt sur ça a l'air de quelque chose de très intéressant qui marche, et ça avait l'air d'être quelque chose qui marche, et donc j'ai voulu me lancer là-dedans.
D'accord. Alors, très bonne introduction, et j'apprécie notamment le passage par rapport à la bulle Internet qui t'a appris un certain nombre de choses que tu as sans doute ensuite mises en application. Alors, j'avais oublié de préciser que si vous souhaitez participer à notre conversation ou poser des questions ou intervenir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Le salon, c'est dièse libre à vous. Il y a déjà Marudil qui fait un petit commentaire sur la réponse du Ludovic. Donc voilà. Donc ça, c'est présentation personnelle. Tu vas commencer un petit peu à parler de XWiki. Alors, on va en revenir évidemment dans la suite de notre échange, parce que c'est le retour d'expérience sur XWiki, mais est-ce que rapidement tu peux nous dire quand est-ce que la société a été créée, un petit peu le domaine d'activité, le nombre de personnes dans l'équipe en quelques mots?
Alors j'ai créé le logiciel en 2003, j'ai créé la société en 2004, quasiment dans la foulée, donc c'était un projet commun en fait, créer un logiciel et une société. Donc elle a 15 ans aujourd'hui, on est 40 personnes, 50% en France, 50% en Roumanie. On fait environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires autour du logiciel XWiki, et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des logiciels collaboratifs. L'objectif, c'est d'aider les gens à partager l'information et à collaborer, et on en fait deux. Alors c'est historique, hein. XWiki, c'est le premier, donc c'est moi qui l'ai créé au départ, et aujourd'hui il est développé par une équipe permanente sur le sujet. Son objectif, c'est d'aider le partage de connaissances, que ça soit en interne ou en externe. Donc on a aussi bien des sites publics de type wiki que des sites d'entreprises de partage de connaissances internes, des bases de connaissances, voire des sites collaboratifs. On est aussi utilisé par le logiciel XWiki, par exemple, utilisé par Amazon, qui a ses propres problèmes en tant qu'acteur du logiciel libre, enfin en tant que moi acteur du logiciel libre, je vois des problèmes autour des sociétés comme Amazon, mais c'est un utilisateur d'XWiki qui a choisi XWiki pour faire son intranet en mode wiki. Et puis on fait un deuxième logiciel qui s'appelle CryptPad. Alors sa particularité à CryptPad, c'est d'être un logiciel entièrement chiffré. Et il a pour objectif de permettre le partage d'informations, mais en respectant la vie privée et en protégeant les informations.
D'accord. Alors CryptPad, on en parlera en fin d'émission si on a le temps, mais on essaiera de trouver le temps. Là, on va se concentrer sur le retour d'expérience, notamment de XWiki. Donc, avec un sujet, donc on va pas rentrer dans le détail sur ce que fait XWiki, parce qu'on pourrait y consacrer une émission entière à ça, mais on retient que c'est un outil de logiciel collaboratif, utilisé par des entreprises, par des collectivités, peut-être pas orienté grand public, je ne sais pas.
Non, il n'y a pas beaucoup de grand public qui utilise XWiki, il y en a un petit peu, on a des sites open source qui utilisent XWiki, donc il peut y en avoir,
mais c'est pas la cible principale.
C'est plutôt de l'organisation.
D'accord. Et donc on va parler principalement du financement du libre, comment XWiki finance. Et déjà, première question, en introduction, j'ai rappelé que logiciel libre et gratuité, c'était deux choses différentes. Donc pourquoi aujourd'hui le financement du libre est un enjeu? Pourquoi c'est important, et est-ce que tu peux peut-être présenter rapidement quelques modèles de financement de logiciels libres et peut-être les difficultés ou ce qui manque? C'est en introduction déjà générale.
Alors, le truc, c'est que moi en tant qu'acteur du logiciel libre, j'y vais parce qu'il y a un aspect technologique, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne, et j'y vais aussi petit à petit d'ailleurs, pas forcément au début, par conviction. C'est-à-dire que c'est important que les choses soient libres. Alors au départ, conviction liée à la souveraineté. Si on veut réussir des sociétés de logiciels en Europe, il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer par rapport aux règles de concurrence avec les Américains. J'avais vu Netscape se faire massacrer par Microsoft. Donc ça posait des vraies questions sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui peut marcher pour une société européenne. Moi, j'avais pas envie d'aller aux États-Unis, j'avais envie de rester en France. Je me suis dit, il faut changer les règles du jeu. Donc, il y avait un aspect souveraineté. Économiquement, si on veut réussir, l'arme du logiciel libre est une arme très intéressante pour l'Europe. Ensuite, j'ai découvert plus. J'ai découvert ce que dit la FSF.
La Fondation pour le logiciel libre.
La Fondation, la Free Software Foundation. Et où, en fait, il y a un aspect contrôle de l'individu sur le logiciel libre. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui me touchait aussi. Et je trouvais intéressant. Alors maintenant, le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, ça serait vachement bien qu'il y ait du logiciel libre. On dit, mais comment on en vit? Et comment on gère la contradiction entre le fait que si on diffuse un logiciel sous licence libre, il est quelque part gratuit. Il n'est pas obligatoirement gratuit, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout faire gratuitement, nous, en tant qu'éditeur, en tant que personne qui produit le logiciel, mais le code est là, il est gratuit. On accepte la concurrence de toute personne qui viendrait se brancher sur ce code pour construire quelque chose de plus. Alors comment on gère cette contradiction entre, d'un côté, on libère de la concurrence, et de l'autre côté, il faut bien qu'on vive et qu'on paye les personnes. Et j'ai découvert au fur et à mesure du démarrage du business XWiki, d'abord les gens qui me posaient la question, mais pourquoi ça va marcher votre boîte si elle est en logiciel libre? Donc comment répondre à ces questions-là? Et puis que ça soit des gens qui disaient, à qui il fallait, on présentait des dossiers, ils disaient mais pourquoi votre boîte va marcher? ou des clients qui disaient, mais pourquoi votre logiciel va marcher?
On va rappeler que c'était dans les années 2000, 2003, 2004, donc à une époque où le libre était encore moins compris qu'aujourd'hui.
C'est ça, aujourd'hui il est beaucoup plus compris, mais moi j'ai eu toutes les questions sur pourquoi ce logiciel il va fonctionner, quoi. Donc on pouvait donner les exemples d'autres sociétés, etc. Mais alors, il y avait quelques avantages à faire du libre. Par exemple, quand on vous disait qu'est-ce qui se passe si vous crevez, ben, je disais, ben, le logiciel il sera toujours là. Et ça, c'est un vrai avantage. À partir du moment où on avait aussi un autre avantage, c'est que quand on faisait du commerce, quand on venait présenter le logiciel, on pouvait montrer des références. Puisque finalement, en diffusant le logiciel sur Internet, bah, on avait des gens qui se mettaient à l'utiliser, y compris des gens connus. Moi, on a eu Oracle qui a utilisé XWiki. Je l'ai utilisé. Aujourd'hui, j'utilise le fait qu'Amazon utilise XWiki. Ça crédibilise le logiciel. Alors ça, c'est un vrai avantage au niveau business de pouvoir crédibiliser son logiciel par ça. Par contre, il reste toujours le problème de comment on négocie le prix, qu'est-ce qu'on vend si le logiciel est gratuit, et je l'ai vu, moi je l'ai découvert petit à petit, on a vu ces problèmes-là et ces difficultés. Bah quand on embauche des commerciaux, le commercial il est là, c'est quelqu'un qui est là pour vendre et pour gagner de l'argent. Dès qu'il voit une difficulté pour gagner de l'argent, il commence à se dire, oh là là, c'est ennuyeux, ça m'embête, j'y arrive pas, etc.
Je suppose que t'as embauché des commerciaux, des commerciales qui avaient l'habitude de vendre entre guillemets des licences, ce qui est plus simple à vendre, que là il fallait vendre un modèle de financement différent.
Alors moi, ouais, XWiki a eu un très bon commercial qui venait du logiciel propriétaire, mais qui comprenait finalement très bien aussi le logiciel libre et qui était intéressant. Et puis on a eu un commercial très jeune qui finalement n'avait pas de préexistence de métier avant. Mais quoi qu'il en soit, on voit que la vente de logiciels libres, ça se fait pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on vend pas le logiciel libre de la même manière qu'on vend du logiciel propriétaire. Mais tu as cette contradiction de bah, qu'est-ce qu'on vend et comment on, la relation entre le fournisseur de logiciels libres et le client est pas en faveur du fournisseur dans la négociation, puisque le client il peut dire moi je paye pas. Alors c'est quelque chose qui est important dans les avantages du logiciel libre pour les clients, donc ça peut amener les clients à s'y mettre, mais finalement ils sont pas obligés de payer, ils peuvent utiliser le logiciel gratuitement, etc. Et moi j'ai des expériences où il y a des gens ils veulent non seulement le logiciel gratuit, mais ils voudraient aussi le service gratos, quoi. C'est-à-dire pourquoi vous me répondez pas à toutes mes questions, ouais. Comment j'utilise le logiciel, etc. Et votre logiciel il est pas assez bien, il lui manque ci, il lui manque ça. Ben, j'ai dit très bien, il lui manque ci, payez, on va vous le faire. Et là tout de suite on sent de temps en temps chez certaines personnes une sorte de réticence une réticence à finalement participer au financement du logiciel. Et donc il y a ces questions de contradictions qu'il faut traiter, et donc c'est un peu pour ça que moi je m'intéresse à cette problématique de financement, et on a mis en place tout un tas de méthodes assez intéressantes justement pour essayer de travailler et d'expliquer aux utilisateurs le fait que le logiciel libre n'est pas gratuit. En fait c'est quelque chose qu'il faut expliquer.
Alors, un point qui est intéressant et que dans la préparation il y a un mot qui est revenu, c'est l'éthique, et je pense que c'est un peu paru dans ce que tu expliquais au début, c'est que toi tu as choisi un modèle, alors on va pas rentrer dans le détail forcément des licences, des explications, mais tu as choisi un modèle qui est vraiment logiciel libre avec au départ une licence libre par rapport à d'autres modèles, notamment les modèles freemium. Alors peut-être que tu pourrais un petit peu expliquer justement ce que sont ces fameux modèles freemium qui se développent et qui sont un piège aujourd'hui pour les structures qui vont avoir recours à ces prestations.
Alors il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de licences et de modèles de business. Et parfois les modèles de business sont liés à la licence, parfois ils le sont pas forcément. Alors nous on a fait un choix, c'est que en interne nos employés ils ont envie de faire du libre. C'est ce qui les motive, et donc si on leur explique qu'on va faire des parties propriétaires dans ce qu'on fait, ils disent on se reconnaît plus dans une société de logiciels libres. Et donc il y a cette contradiction, on la vit aussi en interne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait fonctionner. Alors des business models, il y en a plein, et on peut parler par exemple des business models utilisés par les sociétés les plus capitalistiques. Alors, les plus capitalistes. Donc celles qui reçoivent des investisseurs et des VC qui veulent que
VC
venture capitalistes, ils veulent 10 fois de croissance, ils veulent des
croissance à deux chiffres,
dix fois la valeur que ce qu'ils ont mis au départ, etc. Et là ce qu'on voit c'est que ils mettent beaucoup d'argent, ils donnent du logiciel libre, mais en fait derrière soit ils construisent une offre propriétaire par-dessus le logiciel libre.
Et avec les fonctionnalités les plus intéressantes dans la version propriétaire et non pas dans la version libre.
Et il y a plein de tricks, donc on peut avoir l'impression des tricks dans le sens
des astuces,
c'est-à-dire que finalement on fait croire à l'utilisateur qu'il a un logiciel qui est complet, et en fait l'utilisateur au bout d'un, en fait quand il arrive au moment où il veut vraiment l'utiliser sérieusement, il se rend compte qu'il manque plein de trucs. Et qui sont hyper importants pour lui.
Et donc, cette personne est obligée d'utiliser la version
privatrice. Voilà, il doit passer à la version propriétaire, et là, il se retrouve exactement dans la même situation qu'un logiciel propriétaire, c'est-à-dire dans la situation où lui, il n'a plus de pouvoir du tout, l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est l'autre qui décide combien ça coûte. Alors, il peut décider de rester sur la version libre. Et il y a toujours cette partie libre qui est là, et ça, il faut reconnaître que c'est extrêmement positif pour le monde du logiciel libre. Elasticsearch est un bon exemple. Ouais. C'est un super logiciel, mais
qui permet de faire de l'indexation et de la recherche.
Ouais, de la recherche. Des analyses statistiques, etc. Nous, on l'utilise aussi, là, on utilise la version libre. Mais si on veut sécuriser correctement Elasticsearch, il n'y a plus rien d'Elasticsearch.
Sécuriser d'un point de vue technique, tu veux dire ?
Sécuriser, oui. Mot de passe, droit sur les données, etc.
D'accord.
Donc quand et d'ailleurs,
il y a eu un bug récemment.
C'est un bon exemple où moi je considère que c'est de la responsabilité de la société d'avoir volontairement mis en place une plateforme non sécurisée. C'est-à-dire que c'est volontaire qu'elle soit non sécurisée pour que les fonctionnalités sécurisées soient vendues. De sécurisation soit vendue, et on se retrouve avec des données qui sont leakées sur Internet. Alors, parce qu'il y a des gens qui ont mis des Elasticsearch
c'est des données qui ont été fuitées. Alors je crois que c'est une structure publique, mais j'ai pas le nom en tête, mais je crois que le site Next Impact en a parlé, mais les personnes qui ont mis en place le site ne savaient pas justement qu'il y avait ce problème d'absence de sécurité, ouais. Et donc ces données ont fuité. Donc toi, tu penses que la responsabilité, évidemment, c'est la responsabilité d'Elasticsearch.
Il y a une responsabilité du fait que volontairement ils mettent pas la fonctionnalité de sécurisation, et donc ils le font pour de bonnes raisons, parce qu'ils le font pour avoir quelque chose à vendre, ce qui est légitime quelque part. C'est légitime qu'ils aient quelque chose à vendre. Par contre, c'est complètement occulté, c'est-à-dire personne, ils vont pas expliquer on n'a pas sécurisé le truc pour que vous achetiez la version sécurisée. L'objectif, c'est de diffuser au maximum le logiciel en version gratuite, donc c'est du freemium.
Donc c'est ce qu'on appelle le freemium.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le freemium. Et puis, par contre, c'est un peu un freemium. Il est un peu pas hypocrite, mais on cache.
Il
est caché. Mais ça existe aussi dans les modèles SaaS. Hein. Slack, c'est gratuit. Et puis du
Alors, modèle SaaS, explique ce que c'est qu'un modèle SaaS.
Alors, un modèle SaaS, c'est je fais un service en ligne gratuit sur Internet.
C'est logiciel comme service.
C'est ça. Je fais un logiciel comme service sur Internet. Donc, Slack est un bon exemple, qui a un grand succès.
Alors, Slack, c'est un outil de chat. Voilà,
De discussion. Entreprise.
En gros,
c'est un concurrent de Skype, en fait, qui a un peu pris la main sur Skype aujourd'hui. Il y a des alternatives libres, Matrix, Riot par exemple, Mattermost, qui sont très très bien.
Alors, tous les noms techniques qu'on va citer, on va essayer d'expliquer un petit peu, mais sinon on mettra des liens sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune. Oui. Ouais.
Et donc Slack, c'est un logiciel qui est gratuit. En fait, si vous échangez plus de 10 000 messages, ils ne sont plus dans votre recherche. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'archivage au-delà de 10 000 messages. Mais du jour au lendemain, ils peuvent décider de changer leurs règles. C'est-à-dire que s'ils décident à partir de demain, il y a plus de,
on baisse le niveau d'ouverture
de Slack gratuit, en fait. Il y a un problème d'éthique dans tous ces modèles, en fait, dans le fonctionnement de ces modèles libres, de ces modèles freemium, qu'ils soient libres ou pas libres, avec du logiciel libre ou sans logiciel libre. Il y a un problème éthique qui est le fait de pas dire ce qu'on a planifié de faire. C'est-à-dire qu'l'objectif, c'est d'avoir un maximum de diffusion, un maximum d'utilisateurs, et en fait, plus tard, on va monétiser ces utilisateurs. Et on dit pas comment on va le faire, mais on sait très bien comment on va le faire. On pourrait dire que Facebook, c'est exactement la même chose. Partager sur Facebook, c'est génial, c'est super, etc. Et puis maintenant, boum, le système de tracking universel qui mate toutes nos données et avec des services de plus en plus intrusifs qui utilisent de plus en plus de données. Au départ, ils n'y étaient pas, ces services. Donc, en tant qu'utilisateur, vous ne rendiez pas compte du problème. Et maintenant, tout le monde est OK. Et en fait, on n'arrive plus à en sortir. Ils ont pris le marché et on n'arrive pas à sortir du système. Donc, ces modèles freemium, ils existent. Nous, petit à petit, ils nous convenaient pas. C'est-à-dire que ça ne nous convient pas de cacher des choses à nos utilisateurs.
Toi, si je comprends bien, il y a un point essentiel, c'est comment financer du libre tout en gardant l'éthique du libre, en fait, quelque part. C'est ce que j'ai l'impression de comprendre.
Et en étant éthique, oui, parce que
et en respectant les structures utilisatrices de ton produit.
C'est ça, c'est-à-dire de respecter nos utilisateurs, les gens à qui ont fait la promo de notre logiciel libre gratuitement et qui nous ont apporté plein de bénéfices, les contributeurs qui nous ont donné du code. Moi, quand j'ai démarré XWiki, il y a des gens, ils m'ont donné du code gratos. Juste comme ça là pour m'aider parce qu'ils trouvaient ça sympa. Demain je ferme tout, je ferme mon logiciel, moi je me sens pas bien en tant que là. C'est bien, c'est super, c'est du business, mais c'est pas de l'éthique. Donc nous on veut garder cette éthique.
D'accord.
Alors donc il y a des méthodes et il y a plein de méthodes. Alors on peut peut-être passer un peu
à
ces méthodes.
On va en parler des méthodes. Juste peut-être une petite réaction sur une des peut-être difficultés dans les financements. Tout à l'heure j'ai des projets libres et des logiciels libres. J'ai évoqué le cas de VLC. Parce que là, on va parler d'outils d'entreprise plutôt. Il y a une problématique du financement des ce qu'on va appeler des logiciels utilisation finale pour l'utilisateur type VLC et autres. Ça, c'est une problématique que t'as étudié pour le ou pas du tout.
Oui, alors nous, on n'est pas allé vers le grand public.
Voilà,
alors,
c'est un choix volontaire.
C'est ce qu'on a fait comme choix avec XWiki. Maintenant, Creepad, il va vers le grand public.
Oui, ouais, c'est ça.
On en parlera.
D'accord.
Creepad, il va vers le grand public et pour plein de bonnes raisons. C'est plus par rapport à l'usage du produit XWiki qu'il va plus vers l'entreprise et l'organisation que vers le grand public.
D'accord.
C'est pas forcément un choix personnel ou d'avoir absolument envie de faire de l'entreprise ou absolument envie de faire du.
D'accord.
De pas faire de grand public.
Et quand on parle de CryptoPal, on verra qu'il y a des modèles de financement qui dépendent justement de la cible aussi.
Et les problèmes de financement d'un VLC ou d'un XWiki ou d'un CryptoPal sont pas du tout les mêmes. Et il y a pas un modèle de financement valable pour tous les logiciels libres. Il y a plein de logiciels libres différents et donc il faut vraiment adapter. Donc moi, après l'expérience que je peux présenter par rapport à XWiki, par rapport à Creepad, elle est valable pour nos types de logiciels. Elle sera peut-être pas valable pour tous les types de logiciels.
D'accord, on va en parler juste après. Je vais prendre une question, vu que sur le salon web, il y a la question de Stéphane qui demande « Que dire à la direction d'un système d'information d'une grande entreprise quand l'argumentaire principal est de trouver une personne entité sur qui taper en cas de problème ?» C'est le fameux argument « Quand je prends du Microsoft ou de l'IBM, je sais sur qui taper. » Alors, quand on prend du XWiki, on tape sur qui ?
Ah ben, on tape sur XWiki, voilà. Il n'y a pas de problème.
Mais plus globalement, quelle est la réponse ? Voilà.
Non, alors ça dépend.
Ça dépend
Alors, je ne sais pas exactement dans quel contexte les gens présentent ça. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un employé de la DSI qui veut mettre du logiciel libre dans sa DSI, dans son entreprise, et les gars lui disent « Non, mais tu vas pas mettre du Nagios parce qu'il y a personne pour s'en occuper. »
Je suppose que l'argumentaire, c'est la comparaison entre des entreprises qui sont relativement petites par rapport aux grosses entreprises.
Oui, mais à la rigueur, c'est pas grave. Il y a derrière la plupart des logiciels libres, il y a soit une société éditeur principale. Dans les logiciels d'entreprise, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a pas tant de développeurs sur un logiciel libre. On va les compter sur une doigt d'une main. Il y a pas besoin de tant de développeurs pour faire un bon logiciel. Hein. Faut déjà se rendre compte de ça. C'est-à-dire que tu peux faire un bon logiciel avec très peu de développeurs. C'est pas le problème. La question est de savoir est-ce que t'as une entité juridique avec laquelle tu peux traiter. Alors parfois, ça peut être un éditeur. Parfois, ça peut être des sociétés de services, mais je pense que dans tous les cas, si le seul problème de la DSI, c'est de trouver des entités juridiques pour se garantir un bon niveau de service et savoir sur qui taper, on les trouve, il suffit de payer. Le problème, c'est quand tu essayes de faire la gratuité et avoir quelqu'un sur qui taper. Là c'est normal qu'il n'y ait personne, ça ne peut pas marcher.
D'accord. Alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez participer à notre discussion, les personnes qui nous écoutent, à nous rejoindre donc sur le salon web de la radio, donc le site causecommune.fm. Vous cliquez sur le bouton chat et vous nous rejoignez sur le salon dièse libre à vous. Alors, après cette introduction, on va continuer la discussion sur le retour d'expérience concret de XWiki en espérant arriver à trouver le temps d'aborder tous les sujets, mais sinon on réinvitera Ludovic. Donc, on a bien compris que le choix de départ de Ludovic et de la société XWiki, c'est de le financement de projets libres et avec une éthique, et vraiment du vrai logiciel libre, hein, tel qu'on peut l'entendre. Et donc, comment fonctionne finalement ce financement de logiciel libre ? Comment tu as démarré ? Comment ça fonctionne aujourd'hui ? À quoi tu as recours pour financer le projet ? Est-ce que c'est du support, de la formation ? Est-ce que c'est une subvention ? C'est des donations ? Est-ce que c'est un ensemble de toutes choses ?
Alors, c'est globalement un ensemble de choses, et la première chose avec laquelle on a commencé, c'est le service. J'ai un logiciel, j'ai du code, c'est moi qui l'ai créé. il manque quelque chose, vous voulez l'utiliser, vous voulez faire quelque chose, vous, ce logiciel peut en faire partie de ce que vous avez besoin. Et les premiers projets de service qu'on a fait, à la rigueur, ils étaient pas forcément, ils auraient très bien pu être faits avec autre chose qu'XWiki. Et en fait, c'est petit à petit, que nos projets de service et ensuite nos business sont devenus de plus en plus proches de l'objectif d'XWiki. Donc, le démarrage d'XWiki, c'est de dire, bah, vous avez besoin de quelque chose, bah, je peux le faire, et je vais le faire avec XWiki. Ou je vais faire quelque chose, et puis moi, je vais réutiliser le résultat sous forme de logiciel libre avec XWiki. Donc, c'est d'avoir finalement un deal avec ton fournisseur, avec ton client.
Avec le client.
C'est de dire, bah, moi, je te fais tu me payes pour faire ton projet, et moi, je récupère aussi le code. Il y a une partie qui est pour toi, et il y a une partie qui est libre. Et il y a une partie qui est finalement aussi pour nous, entre guillemets. Et donc on a commencé par faire des projets de service. Alors il y avait quand même une idée hein, derrière le logiciel. Alors mon premier financeur c'est le chômage, hein. comme beaucoup de gens.
Voilà.
Comme beaucoup de gens, j'ai quitté la société où j'étais avant avec un deal. J'ai pu fonctionner avec le chômage. Ça m'a financé pendant 2 ans et ça m'a permis de développer le logiciel. Donc il y avait un logiciel qui avait un objectif, qui sert à quelque chose. Diffusé sous forme de logiciel libre, il lui manquait pas mal de choses. Les premiers clients disent est-ce que vous pouvez faire ci, est-ce que vous pouvez faire ça, et on s'est fait payer pour faire ces éléments de service. Ça c'est le premier élément.
Alors c'est intéressant sur ce premier élément, c'est que tu expliques quand même que des entreprises t'ont payé pour ajouter des choses dont elles avaient besoin, tout en t'autorisant à le reverser, en tout cas partiellement, en tant que logiciel libre.
Et en fait, on le mettait quasiment comme deal de...
Du contrat.
C'est-à-dire, notre logiciel, il est en licence LGPL. Alors, au début, il était même GPL. De toute façon, vous allez devoir, quand on va faire des choses sur le logiciel, ben, on va respecter la licence.
Alors, on va pas rentrer dans le détail, effectivement, on va pas rentrer dans le détail des licences libres. D'ailleurs, on consacrera une émission à ce sujet-là, mais... Ce sont des licences qu'on appelle des licences à réciprocité qui, quelque part, encouragent, en tout cas, à reverser dans le pot commun du développement. Et ce qui est intéressant, c'est que des entreprises ont accepté ce modèle, cet accord, de se dire que je finance un développement parce que j'en ai besoin, mais il va être reversé dans le pot commun, avec aussi l'argument que, en fonction des versions de l'évolution de XWiki, ces fonctionnalités vont rester et donc ça profite à tout le monde, en fait.
Ouais. Et ça, d'ailleurs, ça a continué même après. Hein. C'est-à-dire que régulièrement, on nous paye des fonctionnalités qu'on reverse au pot commun. Et les clients comprennent assez bien que c'est leur intérêt que ça aille dans le pot commun. Parce qu'en fait, ça va être maintenu. Et puis parfois, on peut même arriver à faire payer une fonctionnalité par 2 clients différents. C'est-à-dire ils partagent le coût. Donc on propose la fonctionnalité à quelqu'un. Et puis ensuite, il y en a quelqu'un d'autre qui finance une autre partie où on fait partager le coût de la fonctionnalité.
Et ça a fonctionné dès le départ. Les entreprises ont dès le départ, parce qu'on rappelle,
au début, c'est plutôt dans le cadre d'un projet pour faire un objectif. Et à un moment donné, on est arrivé à des fonctionnalités. Amazon, par exemple, ils ont payé une grande fonctionnalité du logiciel XWiki. Donc ils ont payé. Amazon utilise XWiki, mais ils nous ont aussi payé une roadmap, quasiment une année de roadmap. Donc c'était un deal de 150 000 euros de financement du produit.
D'accord.
Donc on peut et on a eu des financements de l'éditeur WYSIWYG pour remplacer l'éditeur WYSIWYG. On a eu
WYSIWYG, c'est l'éditeur WYSIWYG, c'est un éditeur graphique, on va dire, ou tout ce que
visuel.
Vous tapez visuel, voilà,
éditeur
voilà. Visuel qui apparaît. Ouais, d'accord. Donc ça c'est intéressant et d'ailleurs on parlera tout à l'heure peut-être, j'aurais peut-être une question quand on parle de CryptoPad parce que c'est pas la même licence pour CryptoPad que pour XWiki, donc peut-être que tu nous expliqueras le changement de licence à ce niveau-là. Alors je regarde le salon web, ça discute sur le salon web justement sur l'amalgame logiciel libre et gratuité. Et le temps passe super vite, on va faire une pause musicale. Alors que je retrouve la pause musicale, elle est où la pause musicale? Elle est là, mon petit papier. Nous allons écouter Fear par Lemino. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Thank you.
Nous venons d'écouter Fear par Lemino, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous parlons toujours du financement de logiciels libres avec le retour d'expérience de la société XWiki avec son fondateur Ludovic Dubost. Avant la pause musicale, nous parlions de la partie service support. Et une question pour relancer un petit peu sur cette partie-là, est-ce que ça fonctionne sur le long terme, cette partie service, support, est-ce que ça permet de grossir, Ludovic Dubost ?
Alors le service c'est très bien, mais le problème effectivement c'est que c'est pas facile de grossir, parce que si on embauche, en fait il faut embaucher pour pouvoir faire plus de services, et si du jour au lendemain vos clients vous achètent plus de services, vous avez plus de revenus et vous avez plus de quoi payer les personnes que vous avez embauchées. Donc en tant qu'entreprise, c'est pas facile. Donc on peut le faire avec des freelances, mais c'est très difficile aussi. Donc c'est problématique. Donc ce qui est important quand on est un éditeur de logiciels, c'est de se focaliser sur le revenu produit. Comment on génère du revenu produit ? Le service, c'est super pour démarrer. Ça permet de démarrer, de partir de zéro et de financer doucement, petit à petit, son business. Mais c'est pas facile à scaler.
De monter
à l'échelle et de grandir sur ce revenu-là. Donc nous, dès le début, on s'est posé la question, il est hyper important de vendre un revenu récurrent. Et donc ça, c'est le support. Donc le premier type de revenu récurrent qu'on a vendu, c'est le support. Donc c'est d'associer à nos projets de service un contrat de support. Alors justement, une chose qu'on a fait plutôt tardivement, c'est différencier le prix de service si le client prend ou pas du support. Au début, on prenait tous les clients et on différenciait pas les clients.
Même tarif pour tout le monde.
Maintenant, si vous prenez pas de support, c'est 50% de plus sur le prix du service.
D'accord.
Une deuxième chose qu'on a fait pour mettre en avant les offres de service de support, c'est de dire vous avez un prix pour 3 ans de support et c'est plus cher si vous prenez qu'un an. Donc si vous nous suivez dans le long terme,
la fidélité vous permet de payer moins cher.
C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels font ça, c'est-à-dire quand mon commercial il est venu au début d'XWiki m'apporter un peu cette expérience des grands éditeurs de logiciels, c'était 3 ans pour le prix de 2, 5 ans pour le prix de 3. Alors, c'est exactement la même chose en fait, nous ce qu'on fait avec 30% de moins si c'est 3 ans, mais en fait, c'est pas présenté de la même manière. Et c'est-à-dire que finalement, on présente le fait que si vous nous accompagnez sur le long terme, voilà, on vous fait pas le même prix. Et c'est la même chose avec l'augmentation du 50% de support. Et le fait d'avoir défini ces politiques-là sur notre site et dans notre politique commerciale, fait qu'on on engage la discussion sur le logiciel libre avec le client. Et pour moi, ça a été quelque chose de très important. Et c'est assez récent. On a démarré ça en 2016-2017. Près de 10 ans après, justement, en changeant un peu cette façon de parler du logiciel libre à nos clients. Avant, on avait presque tendance un peu à cacher le fait qu'on faisait du logiciel libre parce qu'on avait peur, finalement, quelque part, c'est assez gratuit à côté. Alors, donc maintenant, on engage frontalement la discussion du financement, finalement, du logiciel libre.
Et t'en fais un axe de vente, en fait.
Et un outil de vente pour expliquer. Vous devez payer pour nous accompagner parce que vous faites partie de l'existence du projet.
Alors, tu parles des structures clientes. J'aurais une petite question sur la gouvernance du projet, parce qu'on a bien compris, donc XWiki, tu l'as créé initialement. Maintenant, c'est une société avec une quarantaine de personnes. Alors, est-ce que vous avez des contributions externes? Et est-ce que dans l'évolution du projet, dans sa feuille de route, c'est XWiki qui décide de tout, ou les contributions externes, enfin les personnes contributrices externes, participent aux prises de décision?
Alors, XWiki, on a fait un choix de séparer en fait le projet libre de la société. Le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est de lui donner un nom différent. Alors, on s'est gardé en fait pour la société une sorte de petit avantage, c'est qu'on a le même nom que le projet libre. Par contre, on a une gouvernance différente entre la société et le logiciel libre. Et le logiciel libre, il est sous gouvernance Apache. Méthode fondation Apache.
Voilà.
C'est-à-dire les gens qui codent, qui participent au code peuvent voter. Alors maintenant, ce qui est compliqué dans le domaine du logiciel libre d'entreprise, c'est qu'il n'y a pas tant de contributeurs que ça. C'est-à-dire, alors, il y en a, hein. Il y a des contributeurs actifs, un peu actifs, mais ils ont rapidement pas l'activité d'un employé permanent. Et en fait, ils ont du mal à suivre. Donc, c'est pas facile. Et par contre, il y a des contributeurs qui contribuent du bug, qui contribuent du test,
de la correction de bug.
La correction de bug, ou même juste le fait de les signaler.
À les signaler, oui.
C'est une contribution qui a beaucoup de valeur. Ils ramènent l'information auprès de la communauté. Et donc, nous, on a une approche très ouverte vis-à-vis de toute personne qui veut participer dans le projet. Par contre, et c'est le cas de pas mal de projets libres d'entreprise, c'est que c'est difficile d'avoir un nombre de contributeurs élevé. C'est-à-dire que rapidement, c'est l'entreprise principale qui fournit le maximum des développeurs. C'est le cas de Drupal aussi, par exemple,
Drupal, c'est pour faire
qui
des sites
pourtant
web.
A une communauté bien plus grande que XWiki encore.
D'accord. On va continuer sur le financement et le retour d'expérience d'XWiki, notamment sur la partie, un point intéressant, sur l'appel de répondre à des appels de financement de projets de recherche français et européens. Tu l'as utilisé à la fois pour XWiki et CryptoPad. Peut-être l'occasion aussi d'expliquer un petit peu CryptoPad et aussi les donations, parce que c'est un modèle complémentaire.
Oui, alors... les éditeurs de logiciels ont la chance en Europe de pouvoir faire appel à des fonds publics. Et qu'on soit éditeur de logiciels libres ou pas libres. Moi, j'encourage toute personne qui veut développer des logiciels de faire le plus possible appel à ses fonds publics. Et donc, XWiki, dès 2006, a commencé à participer à des projets de recherche. D'abord collaboratifs. En fait, on a collaboré avec Mandriva à l'époque. Qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui.
Une distribution GNU Linux à l'époque.
Voilà, maintenant il y a Magea qui est devenu Magea.
Exactement.
Et donc, on est rentré dans ces projets de recherche collaboratifs qui entre autres sont assez accueillants vis-à-vis du logiciel libre parce que finalement pour des fonds publics financer de la recherche qui va être mise sous forme dont l'application va être mise sous forme de logiciel libre est un point positif.
Il y a une certaine logique.
Voilà, il y a une certaine logique, ça va pouvoir être utilisé plus largement que juste les acteurs du projet de recherche. Parce que l'objectif d'un projet de recherche, c'est pas de financer la R&D d'une société particulière. L'objectif d'un projet de recherche, c'est de faire avancer l'état de l'art d'un côté sur la partie recherche et puis aussi d'aider quand même des entreprises à émerger dans ce cadre-là. Donc les logiciels libres sont plutôt bien reçus dans ces différents projets de recherche, qu'ils soient français ou européens. Et donc nous, on a pas mal bénéficié de ce type de projet et on a testé des choses. Et CryptoPad est issu d'un de ces projets de recherche, financé par la BPI.
Banque publique d'investissement.
Voilà, l'objectif c'était de travailler sur des éditeurs temps réel en ligne, qui était une technologie qui nous intéressait à l'époque que pour XWiki initialement, c'est-à-dire que l'objectif c'était de permettre d'éditer dans XWiki en temps réel. Donc on a une extension qui utilise les résultats de cette recherche. Et puis en fait quand on a développé la technologie, on s'est rendu compte que l'algorithme qui avait été développé n'avait pas besoin du serveur. En fait, c'est-à-dire
tout se fait sur le poste client, c'est ça ?
C'est ça. Que la logique principale se fait sur le poste client et le serveur ne servait que de relais aux données, mais n'avait pas besoin de les connaître. Et là, on s'est dit, mais attendez, on peut chiffrer la donnée. Et le fait de pouvoir chiffrer une édition temps réel, finalement, on l'a vu comme un résultat de recherche vraiment très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir de là, on s'est rendu compte qu'on pouvait construire une application collaborative complète à base de ce système de données temps réel synchronisées sans que le serveur puisse connaître la donnée. Et donc, on a décidé de développer CryptoPad. Et la logique de CryptoPad, c'est pas uniquement de faire de l'édition temps réel d'un document, c'est de faire une plateforme collaborative complète, mais à aucun moment, celui qui gère les données sur le serveur ne peut accéder aux données de ses utilisateurs.
Alors,
c'est quelque chose qui existe très peu, en fait, qui n'existe même pas, quasiment pas, sauf pour quelques applications très particulières. Et dans CryptoPad, on fait tout un tas d'applications sur le même modèle.
Alors, pour les personnes qui veulent tester, en l'occurrence, donc c'est cryptopad.fr, c'est ce qu'on appelle le zéro connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, le serveur n'a aucune connaissance des données qui sont éditées, parce que tout se passe sur le poste client quelque part, avec du chiffrement.
Au départ, c'est un Framapad. Hein.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Au départ, c'est un Framapad, sauf que c'est une extension qui permet d'avoir de la collaboration, de l'édition collaborative, mais vraiment avec du chiffrement et sans connaissance sur le serveur des données. échanger. Et donc ça, c'est le point de départ, donc c'est un financement de projet de recherche français. Donc.
Tout à fait. Donc au départ, c'est un financement de projet pour XWiki de technologie. Dans le cadre de ce projet, on a dit bah on va faire un deuxième projet. Il n'était même pas prévu en fait au départ de lancer en tant que produit. L'objectif, c'était de lancer des prototypes. Et puis on s'est rendu compte que c'était viable et donc on a décidé de le lancer. Mais alors un an avant la fin du projet de recherche, on s'est dit mais comment on fait pour le continuer? Là on a décidé de faire appel à de la donation et de faire des souscriptions. Donc en fait CritPad, c'est un logiciel libre qui a une version gérée par nous qui s'appelle CritPad.fr. C'est notre instance CritPad, un peu comme Mastodon a son instance. Et en fait là si vous dépassez 50 mégas, faut payer. Et en fait ce qu'on a décidé c'est qu'on allait faire les souscriptions et les donations en même temps. Et qu'on allait expliquer en fait l'importance de financer le projet.
D'accord.
Et donc l'aspect donation était très important pour expliquer pourquoi il n'était pas gratuit le service CritPad.fr et pourquoi on encourageait de nous payer d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu que quand on a lancé les donations et lancé les explications autour des donations, ce qu'on a fait sur Open Collective, qui est un service très intéressant pour justement demander des fonds pour du logiciel.
Donc justement, en une phrase, Open Collective.
Open Collective, c'est une plateforme où on peut créer son collectif pour financer quelque chose qui est libre. Mais ça peut être pas forcément du logiciel, on peut aussi décider de financer une conférence par exemple.
D'accord, et ça permet de gérer les donations, etc.
Et ça gère les donations, et on peut prendre des paiements, on voit qui a payé. Et alors, moi ce que j'aime bien dans Open Collective par rapport à d'autres systèmes aussi qui ont été lancés, c'est que c'est orienté sur finance ouverte. C'est-à-dire présenter, l'objectif c'est soyez ouvert en fait, présenter de la donnée transparente sur votre projet. Donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant et c'est une des raisons pourquoi j'ai bien aimé cette plateforme. Et donc c'est ce qu'on fait avec CritPad, c'est qu'on a décidé au passage d'ouvrir les finances de CritPad. Alors pas les finances complètes d'XWiki, c'est compliqué, ça nous prendrait beaucoup de temps et pour le moment c'est compliqué de le faire. Mais on a pris le budget de CritPad et on a ouvert les finances de CritPad, incluant non seulement les fonds qu'on obtient par Open Collective, les fonds qu'on obtient par les souscriptions sur CritPad.fr ou les fonds qu'on obtient par des financements de recherche. Et donc, et pour finir, ce qui était très intéressant, c'est que le fait d'avoir ouvert et expliqué les donations, la partie donation, et ben ça a augmenté les souscriptions.
C'est-à-dire quand tu expliques à quoi sert l'argent, ça augmente le don.
Pas que le don.
Les souscriptions aussi.
Les souscriptions aussi.
D'accord.
C'est-à-dire que les gens, il y a des gens qui ont payé le service alors qu'ils n'ont pas besoin de payer le service.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils pouvaient très bien continuer à utiliser la version gratuite, mais ils ont décidé de payer. Et quand on a fait on a un sondage aujourd'hui pour demander aux gens comment vous utilisez, une partie des gens ont dit j'ai payé une souscription parce que je voulais supporter le projet. Donc et pas parce que j'avais besoin de le payer. Donc c'est très intéressant parce que ça permet d'expliquer un peu comment ça fonctionne et comment réussir à payer. Alors pour finir, CritPad a aussi obtenu des fonds. Alors ça suffirait pas aujourd'hui les souscriptions. Aujourd'hui on a besoin de multiplier par au moins 10 pour être capable de payer les deux personnes qui bossent sur CritPad. Alors ce qui est intéressant dans le cas de CritPad, c'est que justement à l'opposé d'XWiki, on fait pas du tout de service. Et pour le moment, on se dit si on voulait, on va peut-être pas le faire du tout.
D'accord.
C'est-à-dire que on va essayer de rester très produit, tout dans la même livraison et pas de spécifique ou de choses autour. Même si on fait même pas d'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrat de support pour entreprise, on ne vend que des souscriptions en cloud et des donations. Et l'objectif, c'est d'essayer aussi. Et donc, par contre, on a besoin de très peu de personnes. C'est-à-dire qu'on a deux développeurs. Ils sont trois aujourd'hui dans l'équipe parce qu'on a une troisième personne. Et en fait, c'est le problème, c'est comment on finance cette petite équipe. Alors, à l'intérieur d'XWiki, donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de financer les frais fixes, etc. Mais ça suffirait pas aujourd'hui d'être uniquement sur les souscriptions, les donations, parce que pour le moment, on est à 10 000 euros. Et on estime être capable d'atteindre 20 000 cette année. Sur l'année 2020. Donc on double, ce qui est déjà bien. Hein. C'est-à-dire que doubler d'une année sur l'autre, c'est pas mal. Et ça suit assez bien l'usage de CritPad. C'est-à-dire que notre analyse, c'est que bah, il faut qu'on multiplie par 10 CryptPath pour pouvoir atteindre 100 000 euros. Et avec 100 000 euros, on peut commencer à payer des vrais salaires.
D'accord.
Par contre, entre-temps, bah, faut qu'on trouve d'autres financements. Et alors là, nous, on a trouvé des financements avec Next Generation Internet, qui est un fonds européen géré par NLNet, qui est une fondation hollandaise et qui finance du logiciel libre. Et là, j'encourage les gens à aller regarder ça. On mettra les liens dans les résumés. Et en fait, on peut obtenir des fonds de 50 000 euros, qu'on soit une entreprise, un particulier, pour un logiciel libre qui répond aux objectifs du fonds. Ça s'appelle les cascade funding. C'est un nouveau système de financement.
Donc, financement
européen.
En cascade, quoi.
Voilà, financement en cascade. L'Europe donne 6 millions à une organisation qui le redistribue sous forme de petits paquets. Et ça, c'est un mode de financement qui est vraiment très intéressant. Et nous, on a foncé là-dessus avec CryptPath qui correspondait bien aux besoins, enfin au sujet qui était proposé. Et donc, on a foncé là-dessus. Et là, j'encourage les gens à aller voir ces types de financement.
D'accord. Alors, le temps a filé super vite. Est-ce que tu te sens de résumer en moins de 2 minutes les éléments clés sur ce sujet de financement? Ou on passe directement à la dernière question bonus?
Non, je peux résumer en 10 minutes. Alors, la première chose que j'aimerais que les gens retiennent de la problématique de financement du logiciel libre, c'est déjà qu'on peut se financer. C'est-à-dire qu'il y a plein de sources de financement, à commencer par le service. On peut développer du logiciel libre, on peut vivre de faire du service. Alors, on ne va pas devenir riche, il faut être clair. Mais ça doit pas, il faut pas que ça soit l'objectif. Il faut pas faire du logiciel libre dans l'optique de se dire qu'on va devenir riche. Il faut faire du logiciel libre parce qu'on a envie de faire du logiciel libre et parce que c'est le boulot qu'on a envie de faire tous les jours. Et donc la première chose, c'est qu'il y a des financements. Par contre, si on veut pouvoir avoir un peu plus de moyens de personnes, c'est-à-dire dépasser 2-3 ou d'être juste dans son coin en train de trouver des financements, ce qui a aussi un intérêt parce que quand on grossit un peu l'entité, bah on peut aussi demander plus de choses y compris aux fonds publics. On peut pas demander des fonds publics en étant tout seul à part NGI qui est intéressant. Si on veut pouvoir grandir, avoir un peu plus d'impact, il faut aller vers le produit. Et donc, faut trouver des moyens de vendre du produit. Donc, le support, les souscriptions, les donations, de vendre le travail qui est fait sous forme de logiciel libre.
D'accord. Donc, en combinant plusieurs méthodes, on arrive à faire une société qui existe depuis 15 ans et qui se développe. Avant la dernière question bonus, je prends une dernière question sur le salon web. Alors là, il faudra vraiment répondre en 30 secondes. Une question de Anne Lotte qui sera dans le sujet suivant. Est-ce que le temps de recherche de financement ne prend pas le pas sur le temps de développement du code? Alors là, en 30 secondes.
Non, ça prend quand même pas le temps. Mais oui, il est vrai que parfois on se sent un peu, à certains points de vue, un peu comme une ONG. C'est-à-dire qu'on sait d'une ONG qu'en moyenne, elle passe 15-20% de leur temps à chercher des fonds. Et oui, c'est vrai, on passe un certain temps à chercher les fonds. Mais ça vaut le coup. C'est-à-dire que c'est le seul moyen c'est aussi le seul moyen de grandir. Alors maintenant, si on arrive à bien cibler ces actions, on arrive à les amener dans la bonne direction.
D'accord. Alors dernière question, je précise qu'on a du timing parce que tout simplement le sujet d'après étant enregistré, on est obligé de se finir à un certain temps pour ne pas dépasser. Un coup de cœur de lecture ou autre, je crois que tu voulais nous parler alors très rapidement d'un livre auquel tu as participé, sur lequel tu étais interviewé, qui s'appelle donc « Déclic » de Maxime Gage et Anne-Sophie Jacques. Donc là, pareil, en 30 secondes.
Oui, alors, il est sorti il y a 3 semaines, hein, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai eu la chance de faire partie des interviewés et de ce livre. Et ce que je trouve très intéressant dans ce livre, c'est que... Donc, il présente, en fait, comment vivre dans le numérique, comment utiliser le numérique sans tomber dans le piège des géants du web. Donc on est tous sensibles aujourd'hui, on entend tous les problèmes autour des GAFAM, donc les GAFAM, Google, Apple, Facebook et compagnie, et comment on peut profiter des services numériques sans tomber dans tous les problèmes associés à cette domination massive de l'internet par ces acteurs. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce livre, il consacre pas tout le bouquin à râler. il consacre aussi le bouquin, une partie du bouquin, à montrer les solutions qui existent. Et donc, c'était un peu dans ce cadre-là aussi que j'avais été interviewé. Justement, un des pans qui est repris de mon intervention, c'est le financement par les fonds publics, recherche, etc. Et donc, il y a cette partie-là. Et puis, il liste aussi des solutions. Regardez, il y a ça comme logiciel qui existe, comme alternative.
D'accord, donc c'est le livre Déclic de Maxime Gedge et Anne-Sophie Jacques, édition Les Arènes, 240 pages. Et effectivement, c'est « Et s'il existait un autre Internet respectueux de nos libertés avec des solutions pratiques ?» Donc je vous encourage à le commander, à le lire. Bah, écoute, merci Ludovic. Donc c'était Ludovic Dubos de la société XWiki pour ce retour d'expérience sur le financement de logiciels libres. Je pense qu'on aura l'occasion de te réinviter pour une prochaine émission. Je te souhaite une bonne fin de journée.
Merci Frédéric.